Et oui, et c'est probablement la dernière fois que je le reçois avec ce titre, puisque l'évêque de Rodez a été nommé archevêque d'Avignon, nous l'avons appris vendredi dernier. Il sera installé le 11 juillet prochain. À cette occasion, nous revenons avec lui sur ses années en Aveyron, 10, et sur le nouveau défi qui s'offre à lui dans un diocèse que l'on dit en souffrance. Bonjour Monseigneur.
Bonjour, bonjour Isabelle et bonjour à tous les auditeurs.
Un grand merci Monseigneur d'avoir accepté cet entretien à un moment qu'on n'a pas de mal à imaginer assez sollicité. Alors d'abord je vais vous demander une réaction face à cette nomination. Comment est-ce que vous l'avez appris je crois pendant la semaine sainte, comment vous l'avez accueilli?
Écoutez, d'abord je l'ai accueilli avec surprise, même si c'était pas un étonnement absolu que le pape me propose de rejoindre notre diocèse après 10 ans de ministère ici. Mais c'est vrai que j'ai été étonné qu'on me propose le diocèse d'Avignon, hein, qui est un diocèse qui me semble important, puis on y reviendra, qui a été marqué par des moments pas simples. Voilà, donc c'était aussi un peu inquiétant. Mais vous savez, dans ces moments-là, on mesure très vite qu'on n'a aucun élément pour vérifier la capacité qu'on peut avoir à assumer la
charge,
la mission qui nous est confiée. Et donc, c'est beaucoup dans une attitude de confiance, hein, confiance au Seigneur qui appelle et puis à ceux qui ont pris le temps de discerner et de formuler concrètement cet appel.
Est-ce qu'il y a aussi la dimension d'un nouveau challenge, nouveau défi, un peu de changement? Est-ce qu'on en a besoin quand on est évêque? Et puis c'est une promotion en plus, un archevêque vous devenez.
Oui, alors c'est un archevêché historique,
ouais.
qui n'a pas une fonction d'archevêché aujourd'hui, mais qui en garde le titre,
ouais.
Parce que c'est une église qui a été sous sa responsabilité un certain nombre de petits diocèses de Provence dans les siècles passés. Et donc voilà, et puis c'est aussi une église qui est marquée par la présence de la papauté, hein, pendant au moins 70 ans, mais aussi ce territoire est demeuré propriété pontificale jusqu'à la Révolution, donc il y a tout le poids de cette histoire qui est important. J'ai oublié le début de votre question.
Eh bien, le nouveau challenge, le nouveau défi, la nécessité, le besoin de changement quand on est évêque, peut-être comme tout un chacun.
Ben, je crois que c'est en tout cas quelque chose qui me stimule, parce que ben, ça veut dire qu'il faut repartir avec un élan nouveau, avec le goût de découvrir, avec le goût de rencontrer et de servir de manière nouvelle. Voilà, et que peut-être après 10 ans, on a besoin aussi d'être relancé.
Et oui, est-ce que vous savez s'il y a une équipe de rugby dans la Cité des Papes, Monseigneur?
Ah. Elle est même jaune et bleue, donc elle est aux couleurs de l'ASM à Clermont, vous voyez.
Est-ce que ça a pesé dans la décision? Ah voilà, la même couleur qu'à Clermont, qui est quand même votre terre d'élection.
Ah, tout à fait, moi bon, avant d'être supporter de Toulouse, je suis supporter de Clermont.
Ça va plaire.
S'ils ne vont pas tout à fait aussi loin.
Ça va plaire à ceux qui nous écoutent. Monseigneur, je vais vous demander peut-être de vous décaler un petit peu de votre téléphone, parce que ça crisse un petit peu dans nos oreilles. Plus sérieusement, vous allez nous dire ce qu'il y a de commun entre le diocèse de Rodez et celui d'Avignon?
Ben, ce qu'il y a de commun, c'est que c'est une église rassemblée par le Christ, prise au milieu des hommes. Alors c'est des terres différentes, hein. Je pense que le diocèse de Rodez est une terre très rurale, c'est
oui.
Une terre grande, hein. Le Rouergue, c'est le 5e département français. J'ai repéré que la population de l'Avignon était 2 fois plus importante.
C'est ça, je l'ai repéré aussi. Ouais.
Et puis sur un territoire qui est 2 fois moindre, donc vous voyez, il y a de vrais changements à ce niveau-là.
Ouais.
C'est une terre aussi de tourisme, c'est une terre de culture, hein, dans son histoire, mais aussi dans la manière dont elle déploie aussi la culture avec le festival,
ouais,
qui est en train de reprendre ces jours-ci. Voilà, mais après j'aurai tout à découvrir, hein. Je ne connais pas du tout cette église dans ses membres, dans son histoire, dans sa réalité d'aujourd'hui.
C'est une église avec également beaucoup de communautés nouvelles et puis beaucoup un clergé coloré, si je puis m'exprimer ainsi, puisque votre prédécesseur a eu beaucoup recours au prêtre Fidei Donum.
C'est ça. Alors, il a beaucoup appelé de prêtres à l'extérieur, venant de différents pays. Il a appelé aussi, je crois, des communautés nouvelles. Donc, ça doit colorer, donner une belle variété à cette église. Voilà. Donc, qui sera à découvrir. Ma mission première, c'est de découvrir ce qu'est cette église et ce qu'elle est devenue et ce qu'elle est aujourd'hui. Et puis, comment à partir de là l'accompagner.
Alors. Merci. Et alors, on va la découvrir ensemble. Avant ça, on va s'arrêter quand même sur les 10 années que vous avez passées en Aveyron. Monseigneur, je rappelle à ceux qui nous rejoignent que nous sommes en compagnie de Monseigneur François Fonlu, qui est encore évêque de Rodez, mais bientôt archevêque d'Avignon. L'Aveyron, c'est là que vous avez, entre guillemets, appris à être évêque. Hein. Qu'est-ce que vous avez réalisé qui, aujourd'hui, au moment de partir, quand vous rend heureux, en tout cas assez fier?
Écoutez, ce qui me rend heureux, je crois, c'est d'avoir marché avec un peuple, avec une église et avec ceux et celles qui composent cette église et qui lui donnent visage. 10 ans, c'est un espace long. Je l'ai beaucoup vécu dans un élan de rencontre. J'ai vécu 2 années au tout début en 2011, de 2011 à 2013. J'ai vécu 2 années complètes pendant lesquelles j'ai visité l'ensemble des paroisses. Je prenais au moins 4-5 jours par paroisse. Et c'était l'occasion de découvrir les communautés chrétiennes, mais de découvrir aussi les hommes et les femmes qui habitaient cette partie du département, hein, des élus, des artisans, des agriculteurs, des personnes responsables d'associations, etc. Et je trouve que ça a été à la fois un temps heureux de rencontre pour tous ceux qui l'ont vécu, mais ça a été pour moi un temps très très fondateur. Ça m'a permis de ne pas unifier tout, de ne pas mettre un peu le même visage partout, de repérer les différences, la variété des couleurs, et du coup de marcher avec ces personnes-là. Ça a enclenché ensuite un temps de réflexion autour d'une lettre que j'avais pu écrire, d'une première lettre pastorale qui synthétisait un petit peu ces 24 mois. Et puis, ça a permis d'engager dans la foulée le temps du synode que nous avons vécu de 2015 à 2017. Et qui a été un temps important de réflexion, puisqu'il y a 300 équipes qui se sont constituées pour vivre un travail de réflexion. Et il y a eu ensuite une assemblée synodale qui a rassemblé, je crois, autour de 200 personnes pendant 7 jours, ou l'équivalent de 7 jours, et qui nous a donc vraiment entraîné dans une prise de conscience claire de la réalité de notre Église aujourd'hui, qui est une réalité qui se transforme très vite et très fortement, et surtout de nous demander qu'est-ce que nous étions appelés à vivre ou à déployer pour être aujourd'hui une Église confiante.
Et oui, et puis on me dit, et vous êtes probablement pétri d'humilité, vous ne le dites pas, mais que vous avez tout de même participé, enfin vous avez initié un travail de re-christianisation de la terre avéronaise à travers la formation Théophile pour le peuple de Dieu que vous avez mise en place. Et puis vous avez d'une certaine manière restructuré l'église avéronaise qui était restée sur un mode d'église à l'ancienne à l'époque où l'Aveyron était une terre fructueuse en termes de prêtres, hein, entre la fin du 19e et la première moitié du 20e siècle, il y avait beaucoup de prêtres, il y en avait même qui étaient envoyés à travers le monde. Vous avez restructuré en créant des fraternités de prêtres. Hein.
Alors, il faut quand même rendre à chacun ce qui a été fait. Moi, quand je suis arrivé, mon prédécesseur avait déjà, depuis le début des années 2000, reconstituer des nouvelles paroisses. Donc en Aveyron, il y a 36 paroisses, ce qui est une manière déjà de redéfinir un territoire plus balisé et plus vaste, plus large pour chacune de ces 36 paroisses du diocèse. Effectivement, alors une des grandes questions, c'est la diminution importante des prêtres. Hein. En 10 ans, j'ai ordonné une centaine de prêtres. J'en ai ordonné 3, vous voyez donc tout de suite le rapport. Et chez mon prédécesseur, pour mon prédécesseur, c'était du même ordre. Donc effectivement, j'ai essayé de travailler à une aussi juste que possible répartition des prêtres sur les territoires, et puis de les inviter effectivement à vivre en fraternité, c'est-à-dire que par paroisse nouvelle, et même plus largement par doyenné, s'il y a 36 paroisses, il y a 8 doyennés, et par doyenné, j'ai nommé une équipe de prêtres chargée solidairement, c'est une expression qui nous vient du droit de l'Église, chargée solidairement d'assurer la charge pastorale donc chargé ensemble d'assurer la charge pastorale de la paroisse du même doyenné. C'est une invitation pour eux-mêmes à ne pas vivre leur ministère tout seul, isolé et parfois au risque qu'ils soient un petit peu désespérés. Et puis c'est aussi une invitation pour les communautés à découvrir qu'elles ne sont pas accompagnées par un homme seul, mais qu'elles sont accompagnées par un homme qui travaille avec d'autres prêtres, et puis qui travaille aussi avec d'autres laïcs, puisqu'il y a des équipes d'animation ou des laïcs en mission ecclésiale qui s'investissent aussi avec eux.
Alors, il faudra probablement, on va regarder maintenant le diocèse où vous allez arriver, il faudra probablement d'autres réponses, un temps de découverte, vous nous l'avez dit, d'autres recettes également adaptées à la spécificité de ce nouveau diocèse qui n'est pas franchement marqué par la synodalité. C'est un diocèse, on l'a dit, en souffrance, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. Monseigneur, vous succédez à un évêque, Monseigneur Jean-Pierre Quatennens, qui a subi quelques frondes pendant son long ministère de 18 ans. Il y a eu des réactions vives depuis l'annonce de son départ. On va pas faire son procès, mais on lui reproche notamment un fonctionnement très autoritaire. Comment, comme évêque, on vit ces hostilités à l'égard d'un frère évêque? Est-ce que vous avez eu l'occasion d'un échange, notamment avec lui?
Écoutez, je l'ai eu, nous sommes parlé au téléphone, mais on n'est pas rentré dans beaucoup de détails sur le parcours. Je prendrai le temps de rencontrer quand le temps sera venu, une fois que j'aurai été installé là-bas et quand ce sera possible. Je sais donc qu'il laisse un diocèse qui est marqué par des blessures. Je ne souhaite pas en même temps m'arrêter. Je veux dire, je vais pas faire le procès de celui qui me précède.
Non.
J'ai plutôt à découvrir l'Église qui m'est confiée aujourd'hui.
Et qu'est-ce que ça dit, ces hostilités à l'égard d'un confrère? Est-ce que ça veut dire que le rôle de l'évêque, il faut le prendre avec davantage d'humilité? Est-ce que ça doit nous donner quelques enseignements? Ça vous en donne?
Il y a sûrement des aspects à retenir, hein, des leçons à en prendre. Je pense que ça dit que les chrétiens sont des hommes et des femmes qui ont à la fois besoin d'être accompagnés. Hein. Je trouve je le sens même dans les toutes premières réactions que je perçois venant d'Avignon. Vous voyez, il y a une attente très forte qui se manifeste. Une église, elle a besoin d'un pasteur.
Mm-hmm.
Elle a besoin d'un pasteur. Mais le pasteur, il n'est pas pasteur à son titre propre. Il est envoyé comme ministre du Christ et comme signe que c'est le Christ qui rassemble son peuple et qui en prend soin. Alors la référence et la source, c'est la manière dont Christ est pasteur dans l'Évangile.
Mmh.
Donc c'est ce qui vient nous indiquer, nous, les chemins que nous avons à prendre, des chemins d'écoute, des chemins de marche avec. Vous savez, le pape a repris cette belle expression, qui est une expression ancienne d'un père de l'Église, mais qui nous parle de l'évêque qui est pasteur, soit en étant devant, soit en étant derrière, soit en étant au milieu du troupeau. Voilà, il faut être avec, il faut accompagner, et trouver une manière aussi paisible que confiante et parfois exigeante dans les chemins qui sont à dessiner et à favoriser, mais qui soit, je crois, profondément dans le respect de chacun et dans la manière de les aider à de leur permettre de rencontrer le Christ et d'en témoigner pour les hommes.
Et alors, vous êtes un petit peu attendu comme le Messie, hein, La Croix, le journal, le quotidien La Croix a eu ce titre, le pacificateur, pour qualifier votre arrivée. Et beaucoup d'attentes, c'est pas simple pour vous, beaucoup d'espoir pèse sur vos épaules. Dans votre lettre aux membres du peuple de Dieu qui est dans le Vaucluse, donc une adresse à ceux que vous allez retrouver, vous leur demandez l'hospitalité, ça signifie quoi?
Écoutez, j'ai, avant de partir d'ici, là, pour à Rodez, on est dans une année de l'esprit, et à cette occasion-là, j'ai écrit une lettre pastorale, et j'ai développé pas mal de réflexions, j'ai essayé de développer ça, une réflexion autour d'hospitalité, pour dire aussi, dans la manière d'aller rencontrer les personnes, on n'arrive pas en terrain conquis, on n'arrive pas avec exclusivement des choses qu'on aurait leur apportées. Mmh. On vient d'abord vivre quelque chose de la rencontre et qui nous demande qui suppose que nous soyons accueillis. Et demander l'hospitalité, c'est demander à l'autre qu'il me permette de découvrir qui il est, ce qu'il habite, ce qu'il anime, ce qu'il cherche, ce qu'il attend, ce qu'il passionne ou ce qui peut le marquer de manière parfois douloureuse ou difficile, quoi. Donc leur demander l'hospitalité, j'ai repris cette expression en leur disant que je viens vers eux un peu les mains nues, c'est-à-dire que je ne veux pas arriver avec un programme ou avec des éléments d'abord à mettre en œuvre. Je viens pour rencontrer ces hommes et ces femmes, rencontrer cette église, mais aussi rencontrer plus largement les hommes et les femmes qui vivent dans le Vaucluse, hein, parce que je crois que l'église ne peut pas se penser que pour elle-même, elle est au service des hommes et au service d'un peuple, voir ce qu'ils sont, voir ce qu'ils vivent, voir ce qu'ils cherchent, et à partir de là, ben, trouver les chemins qui nous permettent de déployer cela en écho avec l'Évangile.
Un grand merci, Monseigneur François Fonlu, pour ces mots d'apaisement. Également, votre installation aura lieu le 11 juillet 2021 à la cathédrale Notre-Dame des Dômes à Avignon, et vous aurez auparavant eu le temps de dire au revoir aux fidèles aveyronnais dans le cadre d'une messe d'action de grâce. Ça sera dimanche 4 juillet à 15h30 à la cathédrale de Rodez. Un administrateur diocésain devrait bientôt être nommé en attendant de vous trouver un successeur. Très bonne route à vous, Monseigneur.
Oui, merci. Merci à tous les auditeurs et puis merci au beau travail de Radio Présence.
Et puis merci également à Pascal Fournier qui m'a aidé à préparer cet entretien. À très bientôt, Monseigneur.
Merci, bonne journée.